Bonjour à tous, bienvenue sur Studio ZEF 91.10, premier agenda culturel de cette année 2017, en compagnie d'Alexandre et Charles. Bonjour.
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 On va en profiter pour souhaiter nos meilleurs voeux aux auditeurs, pour commencer.
C'est d'usage, hein, en cette période d'année.
Voilà, j'espère que vous avez profité des fêtes de fin d'année 2016 pour vous reposer, vous ressourcer, voilà, tout ça. Bon, c'est pas gagné pour certains.
C'est jamais trop le moment, en fait, les fêtes de fin d'année pour se reposer.
Eh bien, agenda culturel, qu'est-ce que vous nous avez prévu, concocté pour ce premier agenda culturel là?
Pour deux raisons. Déjà parce qu'on vient d'entendre l'émission de Véronique et aussi parce que là, y a le froid est arrivé. Moi, je vous propose de rester bien au chaud chez vous et d'ouvrir un livre.
Très bien, super.
Eh bien, moi, au contraire, je vais vous inciter à sortir avec certains concerts.
D'accord, donc une petite sélection de concerts. Et puis moi, oui, je vais plutôt vous conseiller d'aller vous installer confortablement dans les salles sombres de cinéma et profiter de ces salles chauffées très confortables en ces temps plutôt froids. Qui veut se lancer?
Peu importe, je peux y aller si tu veux.
Vas-y, vas-y, je t'en prie.
C'est parti. Allez Charles, c'est parti.
Donc oui, je vous disais, moi je suis plutôt partisan, je suis un peu casanier et puis je suis plutôt partisan de rester à la maison. Donc je voulais vous proposer la lecture d'une série de BD, de manga, mais aussi d'un livre d'un auteur américain. Donc ça c'est un livre que j'ai lu, qui est sorti l'année dernière, au mois d'avril, mais a repris encore un peu plus d'actualité à l'occasion des élections américaines. Donc je vous présente le livre, ça s'appelle Black No More, et c'est de l'auteur américain George S. Schuyler. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre qui a été édité en 1931, mais que c'est la première édition française. Donc pour vous présenter rapidement le livre, en fait ça se passe donc dans les années 30, et l'auteur imagine qu'il y a qu'un sens scientifique invente un procédé qui permet aux Noirs de devenir blancs. Donc on suit à ce moment-là les aventures de Max Disher, qui devient blanc et qui s'appelle maintenant Matthew Fisher, qui pense à ce moment-là que devenir blanc, c'est de devenir heureux, surtout quand on est noir dans les années 30 à Harlem. Bon, il découvre que c'est pas si vrai que ça, mais bon, comme il est plutôt roublard et plutôt opportuniste, il déménage dans le sud. Et il décide de faire fortune en s'appuyant sur une organisation suprémaciste blanche. Cette organisation s'insurge contre la transformation de la société et la disparition des Noirs, et qui se mélange maintenant insidieusement aux Blancs. Alors moi, ce qui m'a vraiment emballé dans ce bouquin, c'est que tout le monde en prend pour son grade, hein. Les organisations racistes, évidemment, hein, blanches, qui sont décrites comme un ramassis de crétins, chrétiens décérébrés, complètement corrompus, mais aussi, du coup, leur pendant des organisations noires, qui sont maintenant totalement désemparées de voir la population changer de couleur, ce qui les rend totalement obsolètes. Au passage, le pouvoir politique s'en prend bonne grosse au passage avec la description d'une campagne présidentielle qui est hallucinante d'actualité, hein, entre les pendants de la défense de la race blanche complètement raciste et puis les démagogues de l'autre côté. Voilà. Donc même le héros n'en sort pas indemne, puisque au final son cynisme et son ambition l'amènent toujours plus loin dans les coups fourrés, à la fois dans sa vie privée et dans la vie publique, puisqu'il épouse une femme blanche, mais comme il est d'origine noire, s'il faut un enfant, on verra tout de suite qu'il n'était pas si blanc que ça, surtout quand c'est la femme une femme blanche un peu raciste en plus. Donc voilà, c'est vraiment un bouquin qui en plus a fait scandale à sa sortie dans les années 30. Comment accepter le postulat de départ de ce livre pour la communauté noire, c'est-à-dire s'ils en avaient le choix, les noirs, ils choisiraient de devenir blancs. C'est vraiment ça le postulat de départ. Bon, pourtant, cette fable satirique a eu le courage de poser des questions encore pertinentes, qui sont encore pertinentes sur les États-Unis, hein, l'hypocrisie, la démagogie, les magouilles populistes, et qui vont de pair avec cette obsession pour la couleur de la peau. Donc voilà, donc ça c'est un livre édité aux éditions Wombat dans la collection Les Insensés. Ça coûte 20€ et c'est à mon avis un très très bon choix.
De quoi s'occuper, une bonne petite lecture.
Exactement. Dans la foulée, je voulais aussi vous conseiller une série de mangas que moi j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Bakuman. Alors c'est un manga, alors c'est un shonen hein, dans la plus pure tradition du genre, qui exhale des valeurs de courage, de travail, de dépassement de soi, de compétition fraternelle, d'émulation. Hein, on suit deux adolescents d'un duo de copains qui ont décidé de devenir les plus grands mangakas du monde. Et donc du coup, il y en a un qui écrit, l'autre qui dessine, un peu comme les auteurs du manga qui sont aussi un duo comme ça, scénariste-dessinateur. Et ils décident de tout, ils donnent tout pour surpasser leurs rivaux et amis. Leur motivation, c'est la promesse qu'un des héros a fait à sa fiancée de se marier quand ils auront réalisé leur rêve. Alors bon, derrière cette thématique classique du manga pour garçons adolescents, assez fleur bleue, on a une véritable découverte, pour moi, ça a été le milieu de l'édition du manga au Japon, hein, puisqu'on a des magazines hebdomadaires, et donc du coup, on a une vraie industrie derrière tout ça. C'est le bon mot, parce qu'on découvre que les auteurs, ils ont des objectifs de rentabilité, ils doivent faire paraître un chapitre par semaine. Aussi une évaluation en permanence par les lecteurs de l'hebdomadaire qui édite les chapitres hein, puisqu'il y a des sondages et que les chapitres les plus plébiscités par les lecteurs restent ceux qui sont au contraire moins appréciés des lecteurs disparaissent. Donc du coup les auteurs ils ont une vraie pression sur les épaules pour continuer à plaire le plus possible au public. Et donc du coup on est amené à découvrir le fonctionnement d'une rédaction de ce magazine. On rencontre les éditeurs qui accompagnent les auteurs, qui les épaulent, mais aussi qui des fois leur mettent la pression, voire des fois les manipulent pour arriver aussi à leur fin. Moi, c'est vraiment cet aspect-là qui m'a vraiment le plus plu, c'est vraiment l'aspect de l'envers du décor, de l'industrie. Et c'est aussi un manga que je trouve intéressant, qui est assez inspirant pour ça, puisqu'on nous montre que la création artistique, c'est pas uniquement une question d'inspiration et d'imagination, c'est aussi du travail, c'est aussi de la réflexion, où il faut calculer, travailler, reprendre constamment son travail, insister pour arriver à avoir quelque chose qui tient la route. Donc voilà, donc c'est Bakuman. Les auteurs, c'est Tsugumi Oba et Takeshi Obata, qui au passage sont les auteurs du manga Death Note, qui a connu un fort succès il y a quelques années, et c'est édité chez Kana Edition.
Très bien, eh bien, c'est super, merci Charles pour ces conseils
de lecture. Juste une petite chose aussi, moi c'est un truc qui me plaît bien dans ce manga, c'est que c'est une série qui est terminée en 20 tomes, donc quand vous commencez, vous savez où vous arrivez. Hein, c'est rare dans l'édition du manga qui justement... Tant que ça plaît, on continue, quitte à rallonger des histoires. Et du coup, ça demande un investissement financier énorme si on veut arriver à suivre la totalité du manga.
Oui, c'est pas mal une série qui se termine. On sait où on va. Très bien, merci. D'autres choses à nous présenter, Charles ?
Non, là, j'ai déjà fait le tour. Je pense que je reviendrai de temps en temps avec des petites chroniques comme ça sur des bouquins qui m'ont plu. Et je pense qu'on reviendra aussi avec des livres pour la jeunesse. Mm-hmm. Nous, à la radio, on a la chance d'avoir un fonds monstrueux de livres pour jeunesse qui sont en plus la plupart du temps une très très grande qualité, donc ça vaudrait à mon avis le coup d'en reparler plus souvent.
Et on peut rappeler aussi un tout petit prix parce qu'on a des livres jeunesse à 1 €, c'est-à-dire on a toute une sélection à vraiment petit prix, et c'est l'opération Lire c'est partir, donc c'est pour tout le monde. Si vous voulez des livres, n'hésitez pas à contacter l'OCCE, voilà, de maternelle jusqu'en primaire, on a des livres à 1 €. On se fait une petite pause musicale.
C'est parti. If she don't love me, what can I do? Just put on my best pair of shoes, because she said he's the one that killed a charm. Honey, let's go on. I just want to know what's wrong with me. Ooh.
persuade the Rango jacket. Ball slang glow, Bronx is only Django. Snap be a golfer star, but that's where my pops go. That's where my pops went. See my percentage is a pennant to the planet. Knock it out the ballpark, crank it. I should not tie this tie to a metal lock. Let the wings spread. It'll always come back, baby. Come back, shellac, black, baby. A comeback flat, black paint on the Chevy.
Voilà, première pause musicale avec The Avalanches, Because I'm Me. C'est presque une nouveauté, ça.
C'est ça.
Sorti en 2016.
Sorti en 2016, 16 ans après leur précédent album.
C'est ça. Une reformation, certainement. Ils avaient arrêté de se produire, hein, il me semble, pendant quelques années.
Puis en plus, c'est un collectif, donc je pense qu'ils ont tous leurs projets à droite à gauche, en plus.
D'accord. Bon, bah, à suivre. On espère qu'on les verra bientôt en concert. Et ben en parlant de concert, tiens, oh, quelle transition. Alexandre, tu nous as fait ta petite sélection de concerts pour et bien la semaine prochaine et ce week-end.
C'est ça, exactement. Mais on va commencer directement par ce soir. Au Théâtre Montsabré, venez retrouver Marcel Goudot qui vient lancer son slam accompagné de son accordéoniste. Donc toujours au Théâtre Montsabré, cette fois-ci demain. Brigitte Lecoq vous propose ses reprises de la célèbre chanteuse Barbara. Mmh. Ensuite, on va enchaîner toujours samedi, donc demain. Cette fois-ci, ça sera au Bar Amine à Tours. Il y aura Téléphérique en concert, c'est une sorte de rock réinventé, tacheté de blues, de punk, et c'est d'inspiration libanaise.
D'accord, très bien, un bon mélange.
Je vous propose d'écouter un morceau.
voilà. Hop, il y a aussi un petit morceau. Téléphérique Bombs and Rockets, donc on peut trouver au Bar Amine, c'est ça, ce samedi.
C'est ça, exactement.
Très bien, à Tours.
Oui, donc on va enchaîner mardi prochain. Vanessa Wagner, ou Wagner, je ne sais pas comment ça se prononce, excusez-moi, va se produire à la Halle au Grain. Elle va interpréter au piano des leaders pour voix de femmes composés par Schumann, auquel elle viendra compléter les scènes de la forêt.
D'accord, très bien.
Ensuite, mercredi 11 janvier, au studio Pôle Nord, il y aura une initiation. Donc c'est un atelier sur les techniques d'enregistrement. Mmh. Et si je ne me trompe pas, ce sera tous les débuts de mois, tous les mercredis en début de mois au studio Pôle Nord.
Oui, alors ça revient régulièrement, il faut contacter le studio Pôle Nord et c'est Frédéric Grammage qui s'occupe d'animer ces ateliers, initiations. Appelez vite parce que c'est très vite complet, donc voilà, généralement.
D'accord, ben moi, j'ai terminé, donc je te laisse la parole.
Très bien. Et bien, puisque tu as parlé de la Halle au Grain, moi je vais faire une transition Halle au Grain aussi, parce que ce soir et demain soir, vous pourrez voir, donc c'est du théâtre, La Bonne Éducation. Donc c'est d'après le théâtre d'Eugène Labiche, c'est la mise en scène de Jean Boyau, et c'est un vaudeville décalé et déjanté. Donc voilà, ce soir 20h30, demain soir 19h30, donc samedi 7 janvier. Je voulais vous parler de cinéma, et bien c'est parti. Hier soir, il faisait froid aussi, hein, vous l'avez remarqué, et pour me réchauffer, je suis allé au Lobis voir un film, j'en avais entendu vaguement parler, je voulais voir ce que ça donnait. C'est Neruda, donc un film de Pablo Larraín. Pablo Larraín qui cette année, enfin en 2016, a sorti deux films, notamment un biopic sur Jacqueline Bouvier Kennedy. Donc voilà. Et il a sorti donc Neruda, c'est un drame policier basé sur l'une des périodes les plus romanesques de la vie du poète et homme politique chilien. Donc on suit le poète dans sa fuite du Chili à la fin des années 40, sous le point de vue du commissaire Oscar Pelluccino, qui est chargé de la traque et l'arrestation de Neruda, qui a été commandé par le président Gabriel González Videla. Donc pour resituer historiquement, en 1946, Gabriel González Videla est élu président de la République du Chili. Dès son arrivée au pouvoir et dans un contexte de fin de Seconde Guerre mondiale et de guerre froide, il se révèle être un dictateur farouchement anticommuniste. En 1948, González Videla expulse les communistes du gouvernement, puis interdit complètement le parti communiste par la loi de défense de la démocratie. Donc des manifestations éclatent dans le pays contre cette loi maudite, ley maldita en chilien, et enfin en espagnol, et ils furent réprimés par toutes ces manifestations furent réprimées par le gouvernement. Donc de nombreux communistes décidèrent de fuir le pays, parmi eux le poète Pablo Neruda. Les communistes qui restèrent furent arrêtés et les dirigeants du parti communiste chilien furent déportés dans le camp de prisonniers à Iquique, dirigé du main de fer par un certain capitaine Pinochet à l'époque, qu'on retrouvera malheureusement plus tard dans l'histoire chilienne. Donc pour revenir au film, c'est un film qui assume une forme fictionnelle, on n'est pas dans le documentaire ou dans le biopic. Donc on suit un jeu de chat entre le chat et la souris, entre le commissaire Pelluccino et Neruda, donc ça nous offre un road movie à connotation policière. Neruda joue avec l'inspecteur et on voit une relation presque passionnelle apparaître entre la proie et le chasseur. Au niveau de la forme, c'est très beau, de beaux plans, c'est très poétique bien sûr, parce que on retrouve régulièrement des poèmes écrits par Neruda pendant sa fuite du Chili, ce qui nous donne un film assez peu rythmé, mais par contre assez contemplatif et qui nous plonge dans une atmosphère de road movie entre une fiction, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas se passer dans la vraie vie ou des choses qui ne sont pas arrivées dans l'histoire, et puis cette réalité, ce fond social qu'on a à cette période au Chili. Donc c'est un film de Pablo Larraín, avec dans le rôle de Pablo Neruda, Luis Gnecco, dans le rôle de l'inspecteur Pelucciono, Gael Garcia Bernal, qu'on retrouve dans de nombreux films, et dans le rôle de l'artiste et compagne Nerudo, donc c'est l'artiste Delia del Carril, c'est Mercedes Morán. Donc vous pouvez voir ce film demain, 13h45 dans l'après-midi, ou en soirée à 20h30. Il passe aussi dimanche, lundi et mardi, 14h et 20h30 pour ces trois jours, et mercredi prochain, 13h45 et 18h. Voilà, voilà pour ce film. Après, des films que je n'ai pas vus, mais que je vais certainement aller voir ce week-end ou la semaine prochaine, parce qu'ils m'ont l'air fort intéressants. On a bien sûr le dernier Jim Jarmusch avec Patterson, avec notamment Adam Driver et l'actrice Goldshifteh Farah Ani. Et puis on a un documentaire, j'aime bien aller dans les salles sombres pour voir parfois des documentaires. C'est assez intéressant. Là, c'est un documentaire réalisé par Morgan Neville, ça s'appelle The Music of Strangers, et en fait on suit le groupe Silk Road Ensemble. C'est un groupe qui a été formé à l'initiative du violoncelliste Yo-Yo Ma, et qui rassemble des musiciens des quatre coins de la planète. On va s'écouter un petit extrait avant de se dire au revoir. Voilà, c'était The Silk Road Ensemble, ça s'appelait Rhythmos Aquinos, et donc vous pouvez bien découvrir le documentaire qui a été réalisé autour de ce collectif de musiciens des quatre coins du monde, aux Lobbies. Donc vous renseignez sur le site des Lobbies, ou alors vous y allez directement, vous prenez un programme, parce que moi je ne l'ai pas noté sur ma feuille. Je profite de ces quelques notes exotiques pour annoncer une soirée de soutien qui aura lieu la semaine prochaine à la Maison de Bégon. C'est une soirée de soutien aux victimes de la ville d'Alep. C'est pas si loin, on en entend beaucoup parler, on sait pas forcément quoi faire pour aider ces gens qui aujourd'hui connaissent la guerre. Une soirée où l'entrée sera à 12 euros. Bien sûr, cette somme sera entièrement versée à l'association Syria Charity. Pendant cette soirée, il y aura des concerts, des projections, un super buffet qui va être préparé par toutes les associations des quartiers qui vont vous préparer un super buffet. Moi, en tout cas, j'y vais surtout pour me régaler. Voilà. Et puis, au niveau des concerts, on aura Mousse de Taforalt, un duo oud voix avec Marwan et Juliette, et puis le groupe de Sharpers avec Joe Peckman qu'on pourra retrouver donc sur la scène de la Maison de Bégon. On en reparlera certainement la semaine prochaine, on fera un jingle d'ici là. On vous attend nombreux, ça va être une très belle soirée et pour une bonne cause, donc c'est vendredi 13 janvier à 20h. Ben voilà, on finit sur une note positive. Voilà, ce sera notre bonne résolution de l'année, soutenir un peu, soutenir de bonnes causes, comme ça. Eh bien, je vous dis au revoir, messieurs, et puis on se retrouve la semaine prochaine autour de ce micro.
À bientôt, ouais.
Au revoir.
Au revoir.